Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui un double mystère. La purification de la Sainte Vierge et la présentation de l'enfant Jésus au Temple. Il y avait en effet deux lois dans l'Ancien Testament que la Sainte Vierge et Saint Joseph accomplissent aujourd'hui. Tout d'abord, une loi qui concernait toutes les mères qui mettent un enfant au monde. Et cette loi était la loi de la purification. Deuxième loi, nous le verrons après, le rachat des fils mâles premiers-nés. Tout d'abord, la purification de toutes les mères, à cause du péché originel. Il est évident qu'il n'y a rien d'impur dans une naissance, ni même dans la conception d'un enfant. Cependant, nous savons bien ce qu'est la concupiscence, et surtout, il y a une certaine honte, une pudeur au moins, qui s'attache à ce qu'on appelle les mystères de la vie, à cause du péché originel, à cause de la blessure. Et il fallait rappeler aux Juifs de l'Ancien Testament, il fallait leur rappeler régulièrement cette déchéance du péché originel. Pour cela, la mère devait être purifiée. Cette loi concernait-elle la Sainte Vierge? Non, à l'évidence. Parce que notre Seigneur est né sans le péché originel, et par conséquent, cette loi ne le concernait pas. Cependant, la Sainte Vierge accomplit cette loi. On lit dans le catéchisme que la Sainte Vierge accomplit cette loi par obéissance. Et dans nos temps modernes, lorsqu'on parle d'obéissance dans un tel cas, alors que cette loi ne s'imposait pas à la Sainte Vierge, on comprend obéissance aveugle. Et on croit que l'Église, que la Providence divine, demande une obéissance aveugle, même lorsque cela ne correspond à rien. Et c'est comme cela qu'on arrive aux pires dérives et qu'on obéit même à des ordres mauvais. En réalité, la vertu d'obéissance nous oblige à penser que si le supérieur demande l'obéissance, il a des raisons et des bonnes raisons. Non pas qu'il a raison de le vouloir, mais parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Non, non. Qu'il a de bonnes raisons, à savoir que c'est sage. Alors, où était la sagesse d'imposer cette loi à la Sainte Vierge qui, semble-t-il, n'était pas concernée? Cette sagesse, c'est que, concernant la très sainte Vierge, cette loi n'a pas pour but de la purifier, mais en accomplissant ce mystère, elle lui donne son sens. Et c'est ainsi que ce rite avait une certaine puissance de purification chez les anciens Hébreux. Les Hébreux attendaient le salut. Ils soupiraient après le salut. Ils savaient plus ou moins, selon qu'ils étaient plus ou moins versés dans la connaissance de l'Écriture sainte, mais ils attendaient le Sauveur. Et toutes les femmes juives qui accomplissaient le rite de la purification depuis Moïse savaient que ce rite avait une signification. Bien plus, elle savait qu'en accomplissant ce rite avec foi, car c'était un sacramental, elle savait qu'en accomplissant ce rite avec foi, elles entraient dans le plan de Dieu et elles gagnaient les grâces qui s'opposent au péché originel. Elles le savaient, et nous en avons maintenant la raison. Cette puissance était donnée à ce rite parce qu'un jour, la Sainte Vierge, en l'accomplissant, lui donnerait tout son sens, tout son poids, toute son efficacité. Et finalement, les femmes de l'Ancien Testament regardaient vers Marie. Elles la connaissaient plus ou moins, je vous l'ai dit, suivant leur plus ou moins grande connaissance du sens profond de l'Ancien Testament, mais elles regardaient vers Marie. Il y a donc une application pour nous, mes bien chers frères. Si les saints de l'Ancien Testament, si même tous les fidèles de l'Ancien Testament, regardaient ainsi vers la Sainte Vierge, à travers ce rite dont ils ne pénétraient pas tout le sens, à combien plus forte raison, nous les chrétiens qui avons eu la révélation pleine et entière de ce mystère, devons-nous regarder vers la Sainte Vierge pour être avec elle purifiés du péché originel. Deuxième mystère, la présentation de l'enfant Jésus au temple et son rachat. L'enfant Jésus est présenté au temple, il est présenté comme victime, il s'offre. Bien sûr, il va être racheté, nous allons voir cela après, mais lorsqu'on présente un enfant, lorsqu'on présente quelque chose à Dieu dans le temple, on l'offre. On peut l'offrir comme une victime qui sera détruite en signe de soumission, mais on l'offre d'une façon plus profonde, de façon à ce que ce qu'on offre soit pleinement dans le plan de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais cessé de s'offrir depuis son entrée dans le monde. Les psaumes nous le révèlent, et c'est confirmé par Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Le Christ, en entrant dans ce monde, c'est-à-dire le jour de sa conception, a dit « Vous n'avez voulu, mon Père, ni sacrifice, ni oblation, parce que tous les sacrifices, toutes les oblations étaient souillés à cause du péché. Mais vous m'avez donné un corps. Alors j'ai dit, me voici, Père, pour faire votre volonté. » Voilà ce que notre Seigneur dit à son Père, c'est la première parole qu'il dit à son Père. La première parole tout court, muette évidemment dans le sein de la Sainte Vierge, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, notre Seigneur possédait dans le sein de Marie la pleine conscience et la pleine intelligence des choses. Notre Seigneur va rester dans cet état d'esprit, va être dans cet état tout court d'offrande. Notre Seigneur se présente comme la victime du péché. Il se présente aussi comme le prêtre parfait qui offre cette victime. Mais je vous l'ai dit, le motif de l'incarnation, c'est le rachat du péché. Et donc, notre Seigneur, au moment où il vient de naître, s'offre une nouvelle fois. Et saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il s'agit là de l'offertoire d'une grande messe qui va durer toute la vie de notre Seigneur et dont le sommet, la consécration, sera au calvaire. Vous me direz, s'il en est ainsi, pourquoi le Christ alors est-il racheté? Il eût bien mieux valu que la Vierge ne le rachetât pas. C'est qu'il était soumis à la loi juive, et que s'il n'avait pas été racheté, il se serait offert dans le cadre de la loi juive, dans le cadre du judaïsme. Or, c'était désormais la fin de l'attente, donc la fin du judaïsme, puisque le Christ que les Juifs attendaient, qui était toute leur raison d'être. Le Christ paraissait, par conséquent, c'était la fin du judaïsme, c'était la fin des rites imparfaits du judaïsme, on allait enfin avoir la plénitude. Et notre Seigneur n'a pas voulu être offert sous le régime de la loi juive pour les seuls juifs, il a voulu être offert sous le régime de son amour parfait, la loi nouvelle qui est la loi d'amour, la loi de l'évangile est la loi d'amour, la loi du Saint-Esprit. Il a voulu être offert par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, pour tous les hommes, toute l'humanité. Et voilà pourquoi il a été racheté. Et Bossuet a une très belle remarque. Il s'adresse à la très sainte Vierge en lui disant « Garde le bien, ô bonne mère, ce fils que tu viens de racheter, car bientôt un autre le vendra pour 30 deniers. » Et la sainte Vierge, qui connaissait parfaitement l'Écriture, savait très bien qu'en rachetant ce fils, elle ne le rachetait que pour mieux l'offrir. Il était à elle pour qu'elle aussi participât à l'offrande que faisait son fils. S'il n'avait pas été racheté, il n'aurait pas été autant à elle, et donc elle ne l'aurait pas autant offert. Mais en le rachetant, il est pleinement à elle. Et elle peut dire à Dieu, elle le dira particulièrement au pied de la croix, elle peut dire à Dieu, « Ce fils, Dieu, il est à moi. » Il est d'ailleurs plus à elle qu'à n'importe quelle autre mère, car il n'est pas partagé avec un père. La Sainte Vierge est la seule à l'avoir engendré. « Il est à moi, pleinement à moi. Vous me l'avez donné, ô mon Dieu. Et comme vous me l'avez donné, je vous le rends. Je vous l'offre. Pour le salut du monde. Pour le salut des hommes. » Et c'est ainsi que la Sainte Vierge est co-rédemptrice. Je vous l'ai déjà dit. Bossuet a nous fait dire cette prière. « Divin premier-né, soit que vous soyez racheté pour être à moi dans votre enfance, soit que vous soyez vendu par Judas pour être encore plus à moi à la fin de votre vie, je veux me racheter pour vous de ce siècle malin, je veux me vendre pour vous et me livrer aux emplois de votre amour. » Car rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le dernier sermon, les mystères du Christ sont nos mystères. Et par conséquent, en s'offrant au temple, le Christ nous offre avec lui, car nous sommes présents dans sa pensée, parce qu'il offre ce sacrifice, oui, il s'offre avec nous, pour nous. Et c'est ce qui explique ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal, c'est-à-dire que tout chrétien a la possibilité de s'offrir lui-même à Jésus, avec Jésus, à Dieu le Père. Bien sûr, il n'a pas la possibilité, comme le prêtre à l'autel, de consacrer le corps et le sang du Christ et de renouveler les sacrifices. Et voilà pourquoi on parle peu de ce sacerdoce baptismal, surtout depuis Vatican II, qui a fait une horrible confusion et qui a tout mélangé. Bien sûr que le sacerdoce du prêtre est bien au-dessus. N'empêche, le chrétien, lorsqu'il s'offre à Jésus-Christ, n'est pas passif. Lorsque vous assistez à la messe, mes bien chers frères, oui, lorsque vous assistez à la messe, vous n'êtes pas passif. Vous vous offrez avec Jésus. Vous vous êtes toujours offert avec Jésus. Toute la vie chrétienne est une vie d'offrande avec Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi vous pouvez vous offrir, même lorsque vous n'assistez pas à la messe ou que vous en êtes privé. Par exemple, le malade sur un lit d'hôpital, ou bien le chrétien qui est dans un lieu sans messe. Il suffit que notre Seigneur se soit offert une fois. Il vous a communiqué, par le caractère baptismal, de pouvoir vous offrir avec lui. Bien sûr, la messe est un véritable sacrement qui facilite cette offrande. Mais dans certains cas, Dieu permet que nous n'ayons pas cette aide, mais alors il ne nous prive pas de nous unir à lui dans son sacrifice. Et cette offrande, elle est vôtre, pourvu que vous soyez unis à Jésus-Christ. Et cette action de vous offrir vous-même à Dieu avec Jésus, c'est une véritable action sacerdotale, puisque vous vous offrez en victime à Dieu, et c'est pour cela qu'on parle du sacerdoce baptismal. Le Christ partage avec ceux qui lui sont unis les grâces qu'il a méritées pour eux. Mais ceux qui refusent de lui être unis, il ne peut leur communiquer les grâces, et il ne veut d'ailleurs pas leur communiquer les grâces, et c'est pour eux la chute. Et voilà pourquoi le vieillard Siméon a pu dire que le Christ a été établi en signe de contradiction pour le relèvement et la chute d'un grand nombre. À nous d'entrer dans le mystère de Jésus-Christ qui s'offre, de manière à ne pas être dans la chute avec ceux qui refusent le Christ. Et ainsi, vraiment, nous pouvons reprendre à notre compte cette belle prière de Bossuet, « Divin premier-né, soit que vous soyez racheté pour être à moi dans votre offense, soit que vous soyez vendu pour être encore plus à moi à la fin de votre vie. Je veux me racheter pour vous de ce siècle malin, méchant. Je veux me vendre pour vous et me livrer aux emplois de votre amour. » Notre-Dame, priez pour nous. Notre-Dame, éclairez-nous. Notre-Dame, sauvez-nous avec votre Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.